chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler d'une très importante exposition qui a lieu au Centre Georges Pompidou, organisée par Camille Moreno. Elle a lieu jusqu'au 26 septembre, cette exposition, et elle a pour sujet un des très très grands peintres allemands, Gerhard Richter. Et Gerhard Richter, à l'inverse des peintres français, qui sont passés souvent de la figuration à l'abstraction ou de l'abstraction à la figuration, lui, en permanence, il va passer de l'un à l'autre. À l'opposé, par exemple, de Jean Hélion, qui d'abord abstrait en 30, devient figuratif. À l'opposé de Nicolas de Staël, qui aussi abstrait, devient vers les années 50 figuratif. Et lui, il est toujours passé de l'un à l'autre et il écrit « Je n'obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance. Je n'ai ni programme, ni style, ni prétention. J'aime l'incertitude, l'infini, l'insécurité permanente. » Voyez cette œuvre à multiples facettes, un véritable kaléidoscope, mais qui renvoie toujours d'une relation à l'autre et toutes ces images sont renvoyées à ce qu'il aime, ce qu'il est, c'est-à-dire la peinture. Très rapide biographie. Il est né en 32 à Dresde, c'est-à-dire dans l'Allemagne de l'Est. Il reçoit très jeune de sa famille un appareil de photo à plaque qu'il commence à utiliser très tôt. Il est admis à l'École des Beaux-Arts de Dresde en 56, diplômé. Il appartient au début donc à la peinture officielle, très singulière, puisqu'elle était quand même sous un régime très dirigé. Mais dès cette époque, il commence une série de gravures qu'il va continuer toute sa vie. La première série s'appelle Elbe. Il épouse une femme qui s'appelle Marianne et qui s'appellera dans les tableaux Emma. Et il découvre en 59 à la Documenta Pollock et Fontana. Et deuxième date très très importante, en 61, il passe dans l'Allemagne de l'Ouest. Il franchit le mur par le métro de Berlin. Il vit d'abord un peu à Oldenburg où sa femme avait de la famille, puis vivra à Düsseldorf. Et ce qui a tout de même important, c'est que la France ne l'ignore pas. Et en 77, première année de Beaubourg, première année du Centre Georges Pompidou, Pontus Ultène le fait venir et le fait exposer. Ensuite, il sera connu dans tous les musées du monde. Il est invité à Cassel en 92. En 95, une autre date importante de sa vie, il épouse une autre femme qui s'appelle Sabine Moritz. Il obtient le Lion d'or de la Biennale de Venise en 97. Bref, il est très connu. Alors, pour essayer de rendre compte de cette exposition, eh bien, il y a d'abord quelque chose d'intéressant, c'est le mot « panorama ». C'est-à-dire, l'exposition est organisée d'une manière très singulière, autour d'une sorte de triangle d'où vont partir un certain nombre de voix, et dans chacune de ces voix, telle ou telle technique est en permanence corrélée, confrontée à la peinture. Première série, « Peindre la photographie ». Et il commence en 1962 avec une première photo-peinture, c'est-à-dire qu'il prend des photos lui-même et ensuite il les peint avec une touche presque abstraite après la photographie. La première peinture s'appelle table et puis une série d'instruments. Il montre des séchoirs, il montre des rideaux, il montre des papiers toilettes, il montre des chaises de profil. Il montre aussi des parties du corps, le nez. Il acquiert très vite un projecteur pour photo-peinture qui permet d'aller plus vite dans son travail. Photo, ensuite projection, ensuite on peint. Et toute cette série en commun, elle donne une impression d'éloignement, d'incertitude, d'un certain malaise et d'un scepticisme qui est lié à plusieurs choses. D'une part, le cadrage est tout petit, avec un espace très exigu. Très souvent, sur ces photo-peintures, on voit la symétrie. Très souvent, surtout, apparaît le flou et il écrit « J'estompe l'espace homogène pour que tout soit d'égale importance et tout soit sans importance. » Bon, date importante dans sa vie, en 66, la naissance de sa fille Betty, et un tableau très important de sa femme qui prend dans le tableau le nom d'Emma, qui n'est pas le sien, qui est une réponse à Duchamp, c'est-à-dire un nu descendant l'escalier, mais un nu qui n'a aucun rapport avec celui de Duchamp, puisque la femme est belle, le corps de la femme est très bien représenté, le fond est textes soignés un peu flous. Et par ce tableau, il montre qu'il connaît bien Duchamp, mais qu'il ne va pas suivre Duchamp. Lui, toute sa vie, va vouloir faire de la peinture peinture. Ensuite, grande amitié, il ne peut pas travailler seul, donc il retrouve dans l'Allemagne de l'Ouest. Il a été très frappé par son passage dans l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'il est un peu isolé, il a quitté sa famille, ou plutôt, en dehors de sa femme, il ne connaît plus grand monde. Et très vite, il devient l'ami de Paul Quet. Et ce qui est très important, c'est qu'en même temps que cette première technique, c'est-à-dire photographier la peinture, il s'intéresse à la transparence. Il ose, en 67, montrer uniquement des panneaux de verre. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au cadre, mais il écrit, mais dans une exposition, un écran, un cadre est plus fort qu'un tableau. Et la même année, des images singulières à travers ce cadre qu'il appelle « Images fantômes » en 1968. Et il donne, dans un monde de vert, un monde de gris, avec un double panneau de vert qui se raconte l'un et l'autre. Et puis, premier paradoxe, il s'intéresse vraiment à la lumière. Un peu plus tard, en 92, on a une bougie. Alors, cette bougie est très singulière parce que elle éclaire elle-même, elle est allumée, mais en réalité, elle est éclairée à gauche, sur un fond qui ne doit rien à la perspective. C'est-à-dire que, vous voyez, il s'oppose totalement au nocturne de la tour. Chez la tour, c'est la bougie qui éclaire tout. Là, la bougie éclaire, mais elle est elle-même éclairée. Et même jeu pour un tableau de l'année suivante, 83, le crâne, où cette fois-ci, c'est un crâne, mais dont l'image joue avec le reflet et toujours un fond qui ne doit toujours rien à la perspective. Ensuite, peu à peu, apparaissent les couleurs. Dès cette époque, d'ailleurs. Et en 66, mais s'y intéresse d'une manière presque intellectuelle, d'une manière presque théorique. Une œuvre qui s'appelle « Couleurs », c'est en céramique. Et en réalité, il s'agit de carreaux, chacun ayant une couleur différente, et qu'il a essayé de disposer d'une manière plus ou moins logique. En plus, la même année, il va faire simplement 6 couleurs. Et puis, de nouveau, haute technique, on a vu la photographie, on a vu la transparence, on a vu le flou. Eh bien, il va s'intéresser à ce qu'on appelle le blow-up, c'est-à-dire la technique du zoom qui vient du cinéma, où on élargit un tout petit endroit de l'image. Et il y a un film d'Antonioni que vous avez sans doute vu autrefois, où tout part d'une haie, où le photographe est un peu étonné par une irrégularité de la haie, et en réalité ça va devenir le sujet du film. Donc, il représente par cette technique, de manière figurative, les éléments abstraits, car il rentre à ce moment-là aussi dans l'abstraction. Et c'est Camille Morino, l'organisatrice de l'accrochage parisien, qui montre comment, de manière figurative, les éléments abstraits sont les couleurs primaires, sont transformés par la peinture. C'est-à-dire que les couleurs primaires, les traits de peinture, les plans colorés, eh bien, il trouve une méthode pour les faire figurer dans son vocabulaire abstrait. Et c'est là, dans ces premiers tableaux abstraits, qu'on voit apparaître, quand même, en superposition, des tubes, une série de géométries. C'est là où il dispose ses couleurs, soit en le juxtaposant, soit en le superposant, soit même avec une raclette sur chaque strate, pour bien montrer qu'en réalité, même superposée, elle n'est pas là toute seule, derrière elle, il y a quelque chose d'autre. Mais, et ça c'est très important, en même temps qu'il peint la photographie, en même temps qu'il utilise toutes les techniques de photographie pour sa peinture, c'est en noir et blanc qu'il dévoilera deux éléments sur lesquels je vais insister. On ne peut pas, en un temps si court, parler de toute son œuvre, de toute l'exposition. C'est là qu'il va dévoiler son intimité personnelle, sa vie personnelle et l'histoire de son temps. L'intimité, eh bien, elle apparaît dans un autoportrait très tardif, 1996. C'est lui-même, mais plus ou moins flou, avec, c'est une huile sur toile, sur fond noir, et franchement, on ne reconnaît pas son visage si on a vu ses photographies. Toujours dans son intimité, c'est bien sûr Emma dont j'ai parlé, avec le nu descendant l'escalier, qui est l'opposant à Duchamp, et puis c'est tout ce qu'il va peindre autour de ses enfants. Donc c'est Emma et l'enfant, et là il avait commencé presque très tôt, sur la gravure, avec des pierres noires sur papier. Et quand il se remarie après 1990, eh bien, il recommence sur la gravure, sur des pierres noires, donc avec une technique encore différente, une série d'images de sa nouvelle femme avec un enfant. Et puis, comme d'habitude, une série d'huiles sur toile, photographie, famille, et il représente toute la famille. La vieille tante, les enfants, tout le monde est là, tout le monde est photographié, et un certain nombre vont devenir des toiles. Et puis, un tableau majeur, absolument majeur, que tout le monde connaît, qui s'appelle Betty, qui figure d'ailleurs le plus souvent sur les affiches. Betty, c'est sa fille, qui à ce moment-là doit avoir une vingtaine d'années, qui est vue de profil, qui vous tourne le dos, et la critique, à juste titre, le compare au Ménine. Mais c'est le contraire de la Ménine. Quand Velázquez peint, ou peint le roi, eh bien, il se peint lui-même, finalement, tout le monde est de face. Là, elle vous tourne le dos pratiquement. Elle va peut-être plutôt aller de profil. C'est-à-dire qu'elle vous tourne la tête, son corps reste là, mais elle regarde autre chose. Et dans cette peinture-photographie, toujours la même technique, cette fois-ci en couleur, alors qu'elle regarde vers le passé, eh bien, il y a un flou. Il y a un flou de la hanche droite, il y a un flou d'une partie de son corps qui ajoute une certaine impression de perte, de sentiment, de disparition. Vous savez tout ce que Barthes a dit sur la photographie. Eh bien là, cette impression de perte, de mort, de disparition, qui est souvent liée à la photographie, elle apparaît sur sa peinture à propos de sa fille, Betty, 1988. Et puis, et je vais aussi insister assez longuement là-dessus, il peint son temps. Et son temps, c'est quand même la mort. Le passage dans l'Ouest a été difficile. Mais il n'a jamais oublié l'Allemagne nazie. Et en 63, eh bien, il peint sa ville de Dresde, qui a été complètement laminée par les bombardements. Et il y a deux tableaux importants, Bombardier, Escadrille de Mustang, qui bien sûr ne datent pas de l'époque où il bombardait, puisqu'on est en 63, mais qui montrent que très longtemps après, il pense encore à ce qui s'est passé là-bas. Et la conclusion, ce sont ce qu'il appelle des paysages urbains, même technique de photo et la peinture. Et quand vous les regardez de près, les villes qui montrent ces paysages sont des paysages détruits. Deuxième thème de la mort, les anarchistes. En octobre 77, il y a un assaut par des terroristes d'un avion de la Lufthansa. Et ça va se traduire par une superbe série. 1988, huile sur toile, où ils représentent ce qui est ils vont être arrêtés, ces anarchistes, et ils vont être tués. Et toute une série en noir et blanc, magnifique, avec le même personnage qui est une femme, qu'on montre quand elle était enfant, qu'on montre ensuite trois portraits de jeunesse, ensuite deux portraits qui s'appellent Confrontation, où elle est floue d'un côté, ensuite elle a une face souriante, ensuite de nouveau elle paraît de profil, et puis l'opposé, elle est morte, étranglée ou pendue, je ne sais pas. Mais il y a une trace violente sur son cou, et même chose, même sort pour ses compagnons, abattus d'une balle, et la série se continue par des arrestations, un enterrement, l'appareil photo, la cellule, toute l'horreur de la prison, et en même temps, il faut bien le dire, la compassion. Enfin, autre phénomène actuel, c'est septembre 2005, les tours de New York, et là, presque une image de journal. Très peu de choses, une petite ligne dans un tableau qui n'est pas très grand, mais où, sans phare, il montre toute l'horreur de ce qui a été, et pour l'Allemagne, et pour le monde occidental, une sorte d'assassinat. Et puis, j'ai oublié l'essentiel, mais je voulais terminer par là. Chez Richter, c'est le triomphe de l'abstraction. Avec une série admirable de 2006, inspirée par John Cage, avec 6 toiles carrées, 300 sur 300 cm, huile sur toile, qui sont vraiment ce que les Français aiment le mieux dans l'abstraction. C'est-à-dire quelque chose de très libre, de totalement emporté, mais de formidablement contrôlé à cause du cadre. Il dit toujours que le cadre, c'est ce qui est le plus important par lui, et qui commence toujours par choisir un cadre, avec un cadre qui est toujours le même, avec une série de carreaux qu'on apparaît à peine, et un délire des couleurs très libre et en même temps très contrôlé. Et cette série, vraiment, beaucoup de peintres auraient dû en rester là. Un peintre français ayant fait ça, il ne pouvait que continuer. Eh bien, lui, c'est un hommage à Cage, il aime beaucoup ça, mais il ne continue pas. Il va faire autre chose, ou plutôt, il a un petit accident médical qui guérit vite, et il continue la multiplicité de ses essais. C'est-à-dire qu'il continue à photographier, il continue à peindre, il continue à mêler le tout, et l'exposition se termine par un tableau qui est superbe, qui s'appelle Stripped, et qui mêle toutes ces techniques. C'est de nouveau la technique de photographie blow-up, c'est-à-dire qu'on prend un tout petit bout de la photo, qu'on va grossir, la photo d'un tableau. Ensuite, cette bordure de tableau est transformée, informatisée, sur des lignes horizontales qui sont parallèles les unes aux autres. Tout ça apparaît sur plexiglas, et c'est ce qui sera la couverture de l'exposition de Paris. Donc, un peintre extraordinairement prolifique, qui est sans doute un des plus grands abstraits de notre génération. Je n'ai pas trop insisté sur son abstraction, parce que pour un Français, elle est évidente. Elle vient de très très loin, vous l'avez vu. Elle a toujours appartenu, elle a été faite en même temps qu'une figuration très poussée, mais là, vraiment, elle triomphe. Il y a tout un panneau, il faut que vous restiez devant ce panneau. Et puis l'opposé, c'est la photo brutale, c'est simplement des plaques de verre qui présentent comme des sortes de sculptures, c'est-à-dire qui jouent avec la transparence totale. C'est simplement des tableaux très gris, très noirs, et tout ça en même temps, pendant une longue carrière, donc un peintre qui domine totalement le siècle où nous vivons.